Bonjour à tous. Bonjour. Qui a trouvé le temps ce matin d'aller voter et d'être à l'heure au culte? Certains, bravo. C'est aujourd'hui effectivement le jour des élections européennes et dans quelques heures, ce soir en tout cas, des hommes et des femmes en Europe vont être élus. Alors pour certains c'est un renouvellement, pour d'autres c'est la toute première fois. Ils étaient pour certains quasi anonymes et les voilà dans quelques heures, ils ne le savent pas encore, propulsés députés au Parlement européen. Une question, comment vont-ils à votre avis gérer cette promotion, ce nouveau statut d'un seul coup qu'ils ont? On l'espère, pour la majorité, ils vont avoir une prise de conscience de leur statut et des responsabilités qui vont avec et ce à quoi ils sont appelés. Pour d'autres, malheureusement, il y a toujours le risque que ça monte un peu à la tête et qu'ils vont plus profiter des privilèges de ce statut. Comment géreriez-vous, après je parle au conditionnel, je ne pense pas que quelqu'un se soit présenté, comment géreriez-vous une telle situation, une promotion? Alors sans pour autant être député européen, ce n'est pas notre cas, mais ce genre de situation où la tentation de profiter d'un statut, de profiter de quelque chose qui nous est donné, peut se retrouver dans d'autres circonstances que les élections européennes. Ça peut se trouver à la maison, au travail, à l'église, ou je ne sais où ailleurs. La tentation de profiter d'un nouveau statut. Et la question que je pose en intro, c'est de dire, est-ce que c'est possible, en tant qu'enfant de Dieu, également, de profiter de cela, dans le mauvais sens du terme, et de ne garder que ce qui nous plaît, et de redéfinir ce à quoi nous sommes appelés? Est-ce que cette tentation, elle existe? Ou en tout cas, elle est là. On va lire dans un instant un texte dans Matthieu 4, les 11 premiers versets. Dans Matthieu 4, dit sur l'épisode dit de la tentation du Christ. Et on va regarder un peu ensemble, ça va être le fil conducteur, de regarder comment, avec Christ, le Fils de Dieu, comment résister à la tentation de redéfinir ce à quoi Dieu nous appelle. La première partie sera comment Jésus, on va regarder comment Jésus a été tenté, mais comment il y a résisté. Et deuxième partie, on va faire le parallèle avec nous, comment, en quoi sommes-nous tentés, et également comment résister. Première partie, je vous invite donc à... Oups, tu peux te mettre en plein écran. Première partie, on va lire, je vous propose de lire Matthieu 4, les 11 premiers versets, je lis dans la version second 21. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Verset 8, « Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Si ça ne marche pas, pas un souci. Première partie, comment Jésus a été tenté et comment il a résisté. D'abord, quelques mots de contexte. Avez-vous remarqué, peut-être dans vos propres vies, comment les tentations peuvent arriver parfois après des moments forts, après des victoires? C'est paradoxal, n'est-ce pas? Alors, pour comprendre l'épisode dit de la tentation de Christ, il nous faut regarder à l'épisode juste avant, l'épisode du baptême de Jésus dans le Jourdain, qui est un moment fort, un moment fondateur pour le ministère de Jésus, et donc un moment suivi, paradoxalement, d'une grande tentation dans le désert. Jusqu'à ce moment-là, on ne sait pas grand-chose de Jésus, en fait. Nous savons tout juste qu'il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et son ministère commence réellement quand Jean-Baptiste le reconnaît comme Seigneur avant de le baptiser d'eau, et surtout quand Dieu lui-même le désigne et le proclame publiquement Fils de Dieu. Matthieu 3, versets 16 et 17. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui-même. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Quelle parole extraordinaire de la part de Dieu le Père envers son Fils. Le Fils bien-aimé, imaginez cette parole, le Fils bien-aimé qui a l'approbation de Dieu lui-même. Cette parole fait écho à plusieurs textes de l'Ancien Testament, Psaume 2, Ésaïe 42, etc., qui parlent du Messie que Dieu enverra. Avec cette parole que Jésus dit, que le Père dit, aucun doute, Dieu proclame que Jésus est bien son Fils et qu'il est le Messie, le Sauveur tant attendu. Voilà un moment fort pour Jésus, un moment important. Comment Jésus va réagir à cela? Car si Jésus est effectivement Fils de Dieu de toute éternité, il est aussi Jésus de Nazareth, un charpentier qui a travaillé dur, une personne qui a grandi à ce moment-là dans un relatif anonymat, j'ai envie de dire, du côté de la Galilée. Il est aussi un homme. Il est aussi humain. Comment Jésus va utiliser ce statut de Fils de Dieu? Va-t-il accepter librement ce à quoi Dieu le destine? En effet, Dieu ne force personne, pas même son Fils. Dieu ne force personne, pas même son Fils. D'ailleurs, ce n'est pas le diable qui pousse Jésus au désert. Vous l'avez vu dans le texte? Ce n'est pas le diable qui pousse Jésus au désert, c'est l'Esprit qui l'emmène. L'Esprit de Dieu qui l'amène, le pousse là où il va être tenté, mis à l'épreuve dans certaines traductions. Et dans tout l'Ancien Testament, le désert, vous le savez, c'est l'endroit par excellence où on rencontre Dieu, où Dieu se révèle, où Dieu parle. Surtout si on y reste, vous avez vu le chiffre, 40 jours, comme Jésus dans le désert, ou 40 années, comme Israël. Il y a un lien. Mais ici, Jésus, quoi, le texte nous dit que Jésus ne va pas au désert pour rencontrer Dieu, il y va avant tout pour être mis à l'épreuve, pour être tenté. Non pas que c'est Dieu qui va provoquer cette tentation. Vous connaissez ce verset de Jacques 1 qui nous dit que Dieu ne tente lui-même personne. Mais Dieu savait que dans le désert, la manière dont Jésus allait tenter, et surtout la manière dont Jésus allait résister à cette tentation, allait nous montrer quel Messie il était. Et je vous propose donc de maintenant de regarder ces trois fameuses tentations que Jésus a dans le désert. La première tentation, vous la voyez, on voit directement le point sur lequel le diable veut attaquer et faire chuter Jésus. Vous avez remarqué, ça commence toujours par « si tu es le Fils de Dieu ».« Si tu es le Fils de Dieu ». Jésus, Fils de Dieu, ce n'est pas la parole que l'on vient d'entendre à la fin de Matthieu 3 lors du baptême. C'est pas une coïncidence, c'est justement cette parole. Jésus vient de passer, à quelques heures près, quelques jours près, il était un charpentier relativement anonyme, et d'un seul coup, c'est le Fils bien-aimé de Dieu. Et ce n'est pas un hasard si c'est sur cette parole-là que le diable va concentrer ses attaques et le décliner de trois manières différentes. On pourrait comprendre la phrase du diable, « si tu es le Fils de Dieu », comme une tentative de remise en cause de ce que Dieu a dit. L'a-t-il vraiment dit? Es-tu sûr d'avoir bien entendu la voix là avec la colombe? Ça nous fait penser dans ces cas-là au jardin d'Éden, évidemment, quand le serpent, le diable, cherche malheureusement avec succès à remettre en cause la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit « vous ne mangerez pas de tous les arbres » Genèse 3. Et on est obligé de reconnaître que la remise en cause des paroles de Dieu est une technique des plus courantes et des plus efficaces de la part du diable. Mais dans ce cas-là, dans ce texte-là, je pense que plutôt que le diable cherche pas directement à remettre en cause, mais plutôt à partir de cette parole, Fils bien-aimé qui a toute l'approbation de Dieu le Père, pour inviter Jésus à abuser, à, si j'ose dire, des privilèges qui vont avec ce nouveau statut, cette identité. Si tu es le Fils de Dieu, alors vas-y, profites-en, fais ceci, fais cela. Car le diable, à ce moment-là, on est au début du ministère de Jésus, le diable ne veut pas d'un Messie souffrant. Il ne veut pas d'un Messie qui donne sa vie à la place de millions d'hommes et de femmes pour leur salut. Alors il essaye de faire devenir ce Jésus de Nazareth un Messie victorieux, un Messie plein de victoire et de pouvoir. Première tentation donc, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. La tentation de subvenir par soi-même à des besoins physiques, la faim en l'occurrence, assez légitime après 40 jours dans le désert. Alors, me concernant, pas besoin d'attendre 40 jours hein, pour me tenter sur le sujet de la faim. Pour moi, ma durée limite, c'est plutôt 40 minutes. Demander à Éléonore, le matin quand je me réveille, si j'ai pas pris mon petit déjeuner dans les 40 minutes qui suivent mon réveil, je deviens grognon. En l'occurrence, donc là, 40 jours, j'en aurais pas dit autant. Et la faim de Jésus ici, elle est légitime. Elle est légitime. Il est à ce sujet, comme vous, pleinement humain. Mais, et c'est là, ça nous pose une question. La satisfaction d'un besoin, aussi légitime soit-il, peut-elle tout justifier? C'est ça la question que ça pose. Alors le diable pousse Jésus, puisqu'il est le Fils de Dieu, à ne pas avoir à subir cette souffrance physique propre aux humains. Il le pousse à exercer, à bénéficier dès maintenant de sa puissance messianique qui lui permettrait instantanément de transformer ses pierres en pain, n'est-ce pas? Un Messie ne peut avoir faim. Un Messie n'a pas faim. C'est ce que le diable dit à Jésus. La seconde tentation, elle est assez similaire à la première et commence par le point, de nouveau, si tu es le Fils de Dieu, virgule. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et il est écrit, Dieu donnera à des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous voyez comment, pour donner plus de force à sa tentation, regardez comment le diable utilise lui-même un passage de l'Ancien Testament pour chercher et pour tromper Jésus. Pour être précis, le passage qu'il utilise, c'est le psaume 91. Et le psaume 91 a raison. Oui, Dieu protège ses enfants quand ils subissent des épreuves. C'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Psaume 91, verset 3. La protection de Dieu, et c'est là le sens le biais du diable, c'est que la protection de Dieu envers ses enfants n'est pas garantie quand ceux-ci font n'importe quoi et autre chose que la volonté de Dieu. Par exemple, faire du base jump depuis le haut du temple sans parachute et attendre d'être in extremis rattrapé par une armée d'anges, c'est pas la volonté de Dieu, et en ce sens-là, la protection de Dieu n'est pas systématique, si on fait un raccourci sur le psaume 91. Et c'est au passage un avertissement pour nous, pour ne pas sortir des promesses bibliques de leur contexte, et leur faire dire ce qui nous arrange, et les utiliser pour cautionner certains de nos choix, qui seraient douteux, mais on aurait trouvé au fin fond de l'Ancien Testament une promesse qui nous permet de nous en sortir. Alors quoi qu'il en soit, même appuyé par ce psaume 91, la tentation proposée par le diable est de nouveau d'utiliser un de ses privilèges de Fils de Dieu, un de ses privilèges de Messie, en l'occurrence une protection sans faille de tous les anges à son service. Un Messie doit pouvoir faire ce qu'il veut, revêtu d'autorité et de victoire dès maintenant. C'est ce que le diable invite Jésus à être. Et la troisième tentation est dans la même ligne. Regarde ces royaumes, je te les donnerai tous si tu te prosternes pour m'adorer. Si le Messie est effectivement éternel, souverain de tout, sur tout l'univers, comment peut-il avoir aucun territoire ici-bas? C'est pas cohérent. Un roi, ça a forcément un royaume. Comment le Messie pourrait-il simplement vagabonder entre Judée et Galilée? Ça n'a pas de sens. Le Fils de Dieu, le Messie, mérite bien mieux que cela. Il mérite possession, pouvoir, dès maintenant. ces trois tentations sont grandes pour Jésus. Ne les sous-estimons pas. Ne nous disons pas, c'est bon, il est fils de Dieu, facile de résister. Hébreux 2 nous dit qu'il a souffert lorsqu'il a été tenté. Il a souffert lorsqu'il a été tenté. Ça n'a pas été facile de résister. Et dans un épisode assez similaire, dans le jardin de Gethsémané, Jésus doit aussi lutter face à la tentation de fuir les souffrances qui l'attendent. Et souvenez-vous, la peur, sa peur est si grande qu'il en pleure des larmes de sang. Ne sous-estimons pas la difficulté pour Jésus de résister à ces trois tentations. Et ces différents passages autour de son identité de fils de Dieu, de Messie, nous montrent en fait à quel point aussi Jésus est homme. Toujours Hébreux 4 nous dit que Jésus a été tenté en tout point comme nous. Il a été tenté en tout point, mais sans commettre de péché. Et la fin de la phrase est importante. Tenté, mais sans commettre de péché. Ça nous apprend plusieurs choses. La faute, le péché, n'est pas de faire face à une tentation. Vous comprenez la nuance ? La faute n'est pas de faire face à une tentation, mais d'y céder. C'est un enseignement pour nous. Si vous devez, chers frères, chères sœurs, si vous devez faire face à une tentation, dans quelque domaine que ça soit, quelles que soient ces circonstances, c'est malheureusement normal, tant que le diable n'aura pas été attaché et lié. Mais la tentation n'est pas un péché, c'est une mise à l'épreuve, de laquelle peut découler un péché. Vous connaissez peut-être l'illustration qui nous parle de ces oiseaux de la tentation qu'on ne peut pas empêcher de tourner autour de nos têtes. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est quand on accepte qu'ils fassent leur nid sur nos têtes. J'ai demandé à Google d'où venait cette illustration. J'ai eu Martin Luther et un proverbe chinois. Alors, je ne sais pas. Peu importe au final. Voilà un peu des choses un peu hétérogènes. Mais peu importe. La vérité est là. L'épisode de la tentation nous montre comment un homme, une femme peut être tentée, et dans le cas de Jésus, bien au-delà de ce que nous-mêmes nous pouvons connaître, mais sans commettre de péché. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas une fatalité, la tentation. Alors, regardons comment Jésus a su résister donc à ces trois tentations, et regardons sa fidélité à la parole de Dieu, et sa fidélité à ce à quoi Dieu le destine. Notre prochain point. Regardons les trois réponses que Jésus donne au diable. Et dans les trois cas, vous avez vu comment Jésus répond en s'appuyant sur des citations des Écritures. Et dans les trois cas, il s'agit de versets issus du Deutéronome, des paroles que Dieu avait données à Israël quand il était dans le désert. Ça doit être une coïncidence, hein. Pas du tout. Dans le désert, justement, au moment où, pareil, le peuple était en formation, il allait arriver en terre promise, il allait devoir commencer son rôle de peuple de Dieu, là où Dieu l'avait placé, et on sait que malheureusement, il a échoué. Et cet épisode de Matthieu 4 nous montre comment Jésus, justement, a réussi là où Israël a échoué. Et on sait que l'évangile de Matthieu est destiné avant tout à un public, un auditoire juif. Cet épisode nous montre aussi comment Jésus a réussi là où Adam et Ève ont échoué, résister au tentateur. Et voyez comment Jésus résiste au tentateur, non en minimisant la parole de Dieu, mais justement en s'appuyant dessus. Et au cœur de la tentation, quand celle-ci est forte, il sait s'appuyer sur sa connaissance, par cœur, on y reviendra, des Écritures de la parole de Dieu. À la première tentation, Jésus donc répond que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce passage, donc dans Deutéronome, se rapporte à l'époque où Dieu pourvoyait aux besoins du peuple juif affamé dans le désert, et Dieu leur avait donné une nourriture céleste, la manne, pour leur prouver qu'ils devaient compter uniquement sur Dieu. Ainsi, Jésus répond avec ce verset et déclare sa confiance en Dieu, sa parfaite soumission à la volonté de son Père. Et même s'il est fils de Dieu, Jésus ne veut pas vivre indépendamment de son Père. Le Messie n'est pas un être indépendant du Père, mais reste un serviteur du Père. La seconde tentation, Jésus répond qu'il est aussi écrit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Tu ne le tenteras pas. » Ce passage se rapporte au moment où le peuple juif s'était rebellé envers Moïse et tenté l'Éternel en disant « L'Éternel, il est au milieu de nous ou pas ? Montre-le-nous. » Exode 17. Tenter Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ce cas-là, ça veut dire c'est exiger de sa part un acte que nous voulons. C'est prétendre pouvoir commander Dieu. Et cela, même le Fils de Dieu ne peut le faire. Le Messie n'est pas venu pour ça, on va le voir, mais il est venu pour autre chose. Et Jésus sait, pour reprendre la tentation avec le psaume 91, sorti de son contexte, le psaume 91 commence par « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Voilà pour celui pour qui est la protection de Dieu, pour celui qui est à l'abri du Très-Haut. Et cela est valable pour moi, pour vous, mais également pour le Fils de Dieu, pour Jésus de Nazareth. Petit clin d'œil, finalement, la protection de Dieu, regardez à la fin du passage, qu'est-ce qui se passe quand le diable y part ? Les anges, les fameux anges qui étaient là, finalement, ils ne viennent pas pour rattraper Jésus in extremis depuis le haut du temple. Les anges sont là. Ils sont là pour le servir et lui redonner, on le suppose, de la nourriture et des forces. Est-ce que Dieu a failli à son psaume, à la promesse du psaume 91 ? Non, les anges sont là pour soutenir le Fils de Dieu. Troisième tentation, que répond Jésus ? Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. De nouveau, le fait de devoir aimer Dieu, Dieu seul, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, est omniprésent dans les Écritures et s'applique à tous, même au Fils de Dieu. Dans les trois cas, Jésus s'est appuyé sur la parole de Dieu, sur les Écritures, pour repousser les tentations du diable qui l'invitait à devenir quoi ? Un Messie de victoire, un Messie glorieux, un Messie qui règne dès maintenant. Est-ce à cela que Dieu destine Jésus ? Est-ce à cette gloire que Dieu destine Jésus ? À long terme, oui. Et l'Apocalypse nous montre comment un jour Jésus sera effectivement victorieux et adoré par des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Est-ce à cela que Dieu destine Jésus ? Oui, mais pas à ce moment-là. Pas au début de son ministère. Le prophète Ésaïe avait annoncé depuis longtemps que le Messie serait avant tout un serviteur souffrant, venu pour prendre sur lui nos transgressions et nos fautes. Et Jésus sait qu'il est venu pour accomplir cela avant tout. Et que le diable lui propose dès maintenant la gloire au lieu de la souffrance, la victoire au lieu du sacrifice. Qu'est-ce que cela aurait eu comme conséquence ? Un grand nombre de pécheurs, vous et moi, n'auraient pas pu être rachetés, pardonnés et réconciliés avec le Père. Et c'est ça que le diable redoute à ce moment-là. C'est ça que le diable redoute. Il sait qu'un grand salut va être accompli et il n'en veut pas. Il ne veut pas que des millions d'hommes et de femmes puissent être au bénéfice de la grâce et l'amour de Dieu. En Matthieu 16, après que Pierre ait professé que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus annonce « Ok, je suis le Messie, mais je vais devoir monter à Jérusalem pour souffrir, pour être mis à mort et pour ressusciter. » Que lui dit Pierre ? « Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. Tu es le Messie, tu mérites mieux que ça. » Que lui répond Jésus ? « Arrière de moi, Satan. » De nouveau, le diable essayait. Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi. » Et de nouveau, le diable a essayé encore de dévier le Messie de ce qu'il s'apprête à accomplir. Et même sur la croix, même jusqu'à la dernière minute, qu'est-ce que doit entendre Jésus ? Si tu es le Fils de Dieu, tu ne peux pas mourir. Descends de la croix. Descends de la croix. Mais jusqu'au bout, Jésus est resté fidèle à ce à quoi Dieu le destinait ici-bas. Être non un Messie de victoire ou de gloire, mais un Messie de souffrance et de sacrifice pour notre salut, pour notre pardon acquis au prix de sa vie et confirmé par sa résurrection. quel sauveur merveilleux nous avons. À lui soit la gloire et la victoire. La deuxième partie nous invite à faire le lien entre ce que Jésus a vécu et ce que nous pouvons vivre. Si ce texte nous montre comment effectivement il a été tenté, comment il a résisté, ce texte nous montre aussi comment nous, à son image, résister aux tentations qui sont les nôtres, non en tant que fils bien-aimé de Dieu au sens fils unique, mais en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre deuxième partie. Alors, les tentations de Christ qu'il a dû subir sont uniques. Et aucun d'entre nous ne peut prétendre avoir été tenté autant que lui. Cependant, nous devons encore faire aujourd'hui face à des tentations, on va le voir, assez similaires. Alors non, peut-être dans leur intensité, mais au moins avec certaines caractéristiques. La première tentation était basée sur la satisfaction d'un besoin physique. La faim. Il est 11h15, je ne sais pas si certains commencent à gargouiller, mais c'est un besoin physique. Mais au-delà de ce besoin, ça a été la faim, mais ça aurait pu être autre chose, la tentation était d'agir indépendamment de Dieu le Père, de ne pas lui faire confiance. Et 2000 ans plus tard, aujourd'hui, cette tentation est encore d'actualité, n'est-ce pas? Combien de fois pouvons-nous être tentés d'agir indépendamment de Dieu, par manque de confiance en sa bonté et sa grâce? Cette tentation nous concerne aussi à notre échelle. La seconde tentation était d'agir de manière insensée, folle. Non par manque de confiance, mais par abus de confiance, par une fausse confiance en Dieu. Prendre une parole biblique, la détourner pour cautionner un choix insensé, le tout en prétendant pouvoir exiger un acte de la part de Dieu. Combien de fois pouvons-nous être tentés, parfois, d'exiger de la part de Dieu un coup de pouce, un petit miracle pour nous sortir d'une situation dans laquelle on s'est mis nous-mêmes? Je fais une parenthèse, même dans ces cas-là, Dieu peut faire grâce. Je referme la parenthèse. La troisième tentation du Christ, c'était de compromettre sa relation avec Dieu le Père par l'appât d'un gain facile, les royaumes à sa portée devant lui. Satan ne nous propose pas, en tout cas moi il ne me l'a pas proposé, ne nous propose pas les royaumes de la terre. Mais quand il s'agit de richesses, de privilèges, de confort, de regard des autres, d'orgueil ou je ne sais quoi, le diable ne sait que trop bien comment nous pouvons être tentés de compromettre plus ou moins notre relation et notre fidélité à Dieu. Combien de fois pouvons-nous être tentés de privilégier la gloire du monde à notre fidélité envers Dieu? Si ces tentations peuvent être parfois les vôtres, sachez qu'elles peuvent être également les miennes parfois. Rien de nouveau sous le soleil. Déjà dans sa première épître, Jean nous parle de trois types de convoitises, de tentations. Et faites le lien avec les trois tentations de Christ. 1 Jean, chapitre 2. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est en l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. 1, 2, 3. Tout cela vient non du Père, mais du monde. Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, rien de nouveau sous le soleil. Mais si rien de nouveau dans le soleil, ça veut dire que les conseils donnés dans la Bible et les moyens que Dieu donne, nous donne restent pertinents et d'actualité sur comment y résister, à l'image de ce que Christ a résisté dans le désert, face à ces trois tentations. Dieu ne nous laisse pas démunis face à ces trois tentations. C'est la bonne nouvelle que je voudrais vous dire. Dans la boîte à outils du chrétien, dans la boîte, voilà, la facom du chrétien, pour sa vie quotidienne, une vie faite de eau, un baptême, le baptême de Jésus, le baptême de Fatémé dans trois semaines, une vie quotidienne faite de haut, une vie quotidienne faite de bas, une mise à l'épreuve, une tentation. Il y a deux outils. Je pense que la boîte à outils est grande, mais il y en a deux que je voudrais ressortir ce matin. Je souhaiterais pour montrer comment mettre en pratique, en application ce texte. Il existe des outils face à la tentation. Ce n'est pas une fatalité. 1 Corinthiens 10 nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Écoutez cette promesse que Dieu nous fait. Premier outil donc que Dieu nous donne, c'est la connaissance de la parole de Dieu pour résister aux tentateurs. Nous avons vu comment le Fils de Dieu s'appuie sur les Écritures, qu'il connaît par cœur, pour résister au diable. Si lui fait comme cela, pourquoi ne pas vouloir faire de même? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole, psaume 119. Et dans ce sens-là, le chant que tu as proposé juste avant était effectivement une bonne introduction. Alors, la connaissance de la parole, ça nécessite, avant la tentation, au préalable de la tentation, d'être imprégné des Écritures, des paroles que Dieu a données à Israël, aux prophètes, aux disciples, aux apôtres, et tout ce qu'on a dans la Bible. Et là, on en revient à une application classique, mais on en revient aux fondamentaux que sont la lecture et l'étude de la parole, de la Bible. Ainsi, au cœur de la tentation, au cœur de l'épreuve, vous serez capable de vous souvenir d'un passage, d'un verset, alors peut-être pas exactement, mais même d'un mot, d'une parole de Dieu qui vous aidera à rester fidèle à votre Dieu. Qu'est-ce que vous lisez actuellement les uns les autres? Dans quel livre de la Bible êtes-vous ces jours-ci? Ce que vous apprenez aujourd'hui de Dieu détermine probablement la manière dont demain vous serez capable de résister et de tenir ferme et de rester fidèle à votre Dieu. C'est ce que vous apprenez aujourd'hui de la parole de Dieu qui vous servira demain. On l'a chanté aussi tout à l'heure dans le cantique avec un lien avec Éphésiens 6. La parole de Dieu est une véritable épée pour résister dans le jour mauvais. L'apôtre Paul nous dit ça. Voilà un outil formidable que Dieu met à notre disposition. Christ l'a utilisé. Pourquoi vouloir faire différemment? Le deuxième outil, c'est mieux qu'un outil. C'est une personne. C'est Jésus-Christ, en l'occurrence. Car s'il a été tenté comme nous, voire même au-delà, au final, il a su y résister avec brio, avec mention, si j'ose dire. C'est bientôt le bac. Ainsi, personne n'est mieux placé que lui pour nous aider au cœur de la tentation. Ce thème, l'Épître aux Hébreux le développe à plusieurs reprises. Je lirai quelques versets dans Hébreux 2, 17 et 18, versets 17 et 18. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit comment Jésus devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Deuxième passage dans l'Hébreu, Hébreux 4, versets 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Pas de commentaire à faire, ces versets se suffisent à eux-mêmes et nous montrent que Christ est la personne la mieux placée pour compatir à nos faiblesses et nous venir en aide. À nous simplement de nous approcher avec assurance du trône de sa grâce. Voyez comment, avec ces deux merveilleux outils, Dieu nous a bel et bien préparé le moyen de nous en sortir et de lui rester fidèle. En conclusion, c'est ma prière, que nous puissions résister à la tentation de redéfinir ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Nous avons, avec cet épisode de Matthieu 4, un formidable exemple, avec Christ qui refuse, sous prétexte d'être le Fils de Dieu, de devenir un messie de victoire sans d'abord avoir été un messie de sacrifice. Et nous sommes aujourd'hui au bénéfice de sa fidélité et de son choix d'aller librement vers ce que Dieu le destinait. Et nous prendrons la Sainte Cène tout à l'heure et nous réaffirmerons que par sa mort et sa résurrection, il est aujourd'hui notre Seigneur et notre Sauveur. Quant à nous, appuyons-nous sur Christ et résistons à la tentation, sous prétexte d'être enfant de Dieu, de redéfinir ce que ça voudrait dire et de ne garder dans cela que ce qui nous plaît. Faire la liste complète de ce à quoi Dieu nous appelle serait une deuxième prédication. Je vous l'épargne ce matin. Mais pour ne retenir que trois items en écho aux trois tentations de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ses enfants, Dieu nous appelle à lui faire confiance, à ne pas agir indépendamment de lui, et même pour les besoins les plus basiques. Dieu nous appelle à ne pas abuser de cette confiance pour exiger de Dieu quoi que ce soit. Il reste le Dieu de la terre et des cieux. Il nous appelle à l'adorer lui seul, et que rien ici-bas, dans ce monde, ne puisse compromettre notre amour pour lui. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Ne changeons pas cela. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous soutienne par son esprit. Amen.